et bienvenue dans le premier podcast officiel des écrans terribles. Alors, c'est quoi les écrans terribles? Caroline Liri, rédactrice en chef, c'est quoi les écrans terribles?
C'est un site consacré au cinéma, aux séries et aux cultures populaires qui a été lancé en mai dernier.
Et qu'on trouve sur www.lesecransterribles.com. Mais Marine Legrand, envoyée spéciale de Berlin, fraîche recrue des écrans terribles, c'est quoi les écrans terribles?
C'est le site qui m'a donné ma chance et qui va me permettre de m'envoler.
Waouh!
Et ben moi, je dis que les écrans terribles, c'est aussi un site où on trouve plein de choses écrites par des plumes libérées et engagées qui se permettent d'écrire autrement sur des sujets qui nous touchent de près et de loin. Enfin, en gros, comme dirait Instagram, parce qu'on est là pour faire du plugin. @écranterrible au pluriel, c'est un média alternatif et iconoclaste.
Merci Yael Simkovic pour cette magnifique description de l'identité des écrans terribles que tu résumes d'autant mieux que tu as aiguisé ta plume sur le site grâce à plusieurs papiers que tu as publiés sur Black Panther, sur Wonder Woman et donc maintenant maîtresse de cérémonie de notre podcast.
Bref, les écrans terribles, c'est un site super génial. En pleine expansion, la preuve, on inaugure une chaîne de podcast et nous avons le privilège, l'équipe berlinoise, d'ouvrir les festivités avec une série de podcasts en direct de la Berlinale 2019. Nous sommes le jeudi 7 février 2019, le festival s'ouvrait aujourd'hui. Vous êtes donc dans le premier épisode des écrans terribles chez les ours, #Berlinale 2019. Ça y est, on y est. Premier podcast officiel de la Berlinale, enfin en tout cas officiel pour les écrans terribles. Berlinale 2019, on a vu le premier film en compétition, qui est aussi le film d'ouverture, qui est un film écrit et réalisé par Lone Scherfig, qui est une réalisatrice danoise, donc nous ne savons pas vraiment prononcer le nom, mais on va décider que c'est Scherfig. En tout cas, c'est écrit S-C-H-E-R-F-I-G, c'est ça.
Exactement.
Son prénom, c'est Lone. Je suppose que ça se prononce comme ça. En tout cas, c'est L-O-N-E.
On va décider de le prononcer comme
voilà,
ça.
Voilà. Une réalisatrice. J'avoue avoir essayé de d'avoir le moins d'informations possible avant chaque film. Et donc, du coup, j'avais l'impression que je ne savais absolument pas qui était cette personne. J'ai réalisé entre-temps que j'avais tout à fait connaissance de son parcours cinématographique. J'ai déjà vu deux de ses films et deux autres que je voulais voir aussi.
Et tu as vu un de ses films que tu as beaucoup, beaucoup aimé déjà par le passé. Donc, et ça a éclairé à posteriori...
Absolument, et qui est un film qui a été à la Berlinale à l'époque, qui a fait beaucoup parler de lui, et que moi j'ai vu en Allemagne à l'époque, en allemand d'ailleurs. C'est un film qui s'appelle Italian for Beginners, dans les années 2000, et qui était un film du Dogme, qui me semble c'était la première réalisatrice à faire un film Dogme.
Tout à fait.
Sachant qu'elle a commencé à faire son premier film en 91, donc elle a quand même un certain passif. Et, mais elle a aussi réalisé An Education, et One Day, qui sont des films que je voulais voir. Et elle a aussi réalisé, il y a quelques années, The Finest, qui est un film dont on a parlé dans le premier podcast que moi et Marine avons fait avec la semaine berlinoise.
Exactement.
Il y a début d'une grande carrière podcastriste. Donc en fait, je suis arrivée, j'ai aimé ce film pas du tout en toute connaissance de cause, en zéro connaissance de cause, spoiler alert. Et en fait, finalement, il y avait plein de raisons parce que j'avais déjà aimé cette réalisatrice. Et vous? Vous saviez dans quoi vous alliez mettre les pieds? Vous aviez des attentes, des a priori, des...
Moi, j'ai essayé de rien savoir sur le film avant de le voir. Comme j'essaie de plus en plus de faire pour beaucoup de films, mais mon métier, mes activités font que c'est très dur de se préserver de beaucoup d'informations. Mais le moment des festivals, c'est le moment où c'est agréable de pouvoir le faire. Pour un certain nombre de réalisateurs, forcément, on sait des choses sur eux, donc ça peut déjà orienter favorablement ou défavorablement...
Ou défavorablement.
Le regard sur le film, pour certains d'entre eux. Mais là, voilà, sur The Kindness of Strangers, je connaissais le casting, et c'était tout, c'était déjà beaucoup. Et
tu peux dire,
et souvent, c'est vrai que...
Alors,
les deux acteurs principaux, ce sont Zoé Kazan et Taha Rahim. Donc, là...
Pardon. Je n'ai pas pu m'en empêcher, désolée.
Taha Rahim, voilà, que les Français connaissent bien depuis Un prophète et qui fait son petit bonhomme de chemin aux États-Unis depuis quelques temps et qui est tout à fait convaincant dans ce film aussi. qui a créé beaucoup d'émoi, de frissons dans la salle ce midi.
Surtout de mon côté.
Et non, ce que je voulais dire, c'est que les films d'ouverture de gros festivals, c'est souvent des films, on va dire, plaisants, mais pas forcément des films... des films hyper forts, on peut avoir parfois l'impression que c'est des choix un peu stratégiques, des choix un peu commerciaux, mais des films vraiment en dehors de ce qu'on peut attendre d'un point de vue qualitatif, de ce que va être la compétition derrière. Et là, je trouve que la Berlinale a fait un choix vraiment intéressant et pertinent avec ce film-là. Donc déjà, la Berlinale ouvre sur un film réalisé par une femme, avec un personnage féminin très fort dans le rôle-titre. La Berlinale a aussi mis en valeur dans sa programmation les réalisatrices de façon générale. On a 41% de femmes réalisatrices en compétition, 42. Presque 42. Alors évidemment, on n'a pas des bouts de femmes, hein, vous imaginez bien. C'est juste que voilà, les comptes statistiques sur les différents films amènent à ce chiffre-là. D'ailleurs, la Berlinale a publié une étude très intéressante sur la question de la représentation genrée dans sa programmation au fil des années.
Et ce sont des informations qui ont été mises en valeur dans la conférence de presse où elle vous avait assisté.
Les informations ont été mises en valeur dans la conférence de presse, sont disponibles en ligne et accessibles à tous les publics, pas uniquement aux professionnels sur le site de la Berlinale. Et le document PDF existe en version bilingue allemand et anglais. Et il y a vraiment une attention sur la question de la parité, d'une meilleure représentativité, en prenant en compte non seulement le poste de réalisateur-réalisatrice, mais aussi tous les postes de chef de poste en fait, dans les équipes techniques également, pour avoir une idée plus précise de la représentation des hommes et des femmes dans les différentes créations de films. Et en plus, il y a une réflexion sur la question binaire-non-binaire, en plus au-delà du fait de considérer les gens en tant qu'hommes ou femmes. Donc il y a une vraie réflexion sur la question du genre dans l'étude qui a été proposée ici.
Et l'édito de tous les programmes, qui est toujours l'édito qui est répété du directeur du festival, pour titre, je crois que c'est Persönlich ist politisch ou un truc comme
le
ça.
Le privé est politique.
Le privat ist politisch, qui est en gros apparemment un des slogans du mouvement de droit pour les femmes de 68 en Allemagne. Donc il y a vraiment ce qu'il explique dans cet édito. Donc on est vraiment dans un truc ouvertement, qui réfléchit ouvertement sur ces questions-là. Vraiment à toutes les étapes du discours autour du festival.
Donc et peu après la conférence de presse de présentation de la programmation de mardi dernier, le directeur de la Berlinale a signé aussi l'accord 50-50 pour une mise en valeur et un travail proactif sur la parité dans le festival, dans la composition des comités, dans la sélection des films, ce qu'en fait pour le coup la Berlinale faisait quand même déjà très largement avant la signature de cet accord, et c'est un accord qui a été lancé, signé la première fois à Cannes en mai dernier, et que plein de festivals signent depuis quelques temps. Il a été signé je crois hier à Clermont-Ferrand, le Cannes du court-métrage en France. Donc il y a vraiment une démarche de la part de ce collectif-là depuis le printemps dernier pour que tous les festivals qui ont une vraie ampleur et qui peuvent être vraiment des acteurs importants dans la façon de faire bouger les lignes en termes d'action de représentation s'engagent officiellement. Mm-hmm. Voilà, et donc ça c'était un geste fort, déjà de choisir un film qui laissait entendre cette ligne-là. Et après, moi, sur la découverte du film, je vais pas dire que j'étais agréablement surprise parce que j'avais pas d'a priori négatif, mais j'ai été très vite absorbée par le film, ce qui est pas forcément la position dans laquelle on est quand on est dans le cadre d'être accrédité pour un festival où forcément on peut être sur une réserve critique et avoir son cerveau analytique qui s'enclenche assez vite. Et là, je me suis vraiment laissée porter et j'ai été très 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 émue par le film. J'ai beaucoup pleuré. Et le film m'a énormément touchée. Je vais juste te dire ça pour l'instant et laisser la parole à Marine.
Alors du coup, Marine, toi, est-ce que tu avais des attentes, pas d'attentes? Puis c'est ton premier film de festival. Vas-y, raconte un peu ce que c'est.
Alors moi, ce que je savais du film, le titre, réalisatrice, sans avoir cherché
qui c'était, ce qu'elle avait fait.
Enfin, savais que c'était une femme, je sais que, enfin, c'est le seul truc que je savais. Je savais que c'était une réalisatrice, donc c'était. Parce qu'ils en avaient fait, déjà fait un, art, ils avaient fait un article, c'est en disant qu'ils ouvraient le festival avec une réalisatrice et les gens étaient genre. Super d'ouvrir un festival avec une fille, etc.
Déjà, 2019. Ouais.
Et donc voilà. Nous, et en gros, ils en ont parlé pendant la conférence de presse aussi, en disant qu'ils ouvraient, que c'était pas anodin d'ouvrir un festival avec une femme, parce qu'il fallait quand même marquer le truc. J'avais juste vu la photo, donc je savais qu'il y avait, je savais qu'il y avait les deux acteurs, donc Tahar Rahim et Zoé Kazan. Le reste, je savais pas qui jouait dedans. Et je savais juste qu'il y avait une, enfin qu'il y avait juste une des destins croisés en fait.
Ouais.
J'étais juste le truc que j'avais juste enfin perçu.
Et moi je l'ai vu dans le métro ce matin. Il y avait une news sur le film dans le métro de Berlin et ils disaient plusieurs personnes, chacun à leur façon. Je fais non, je ne veux rien savoir.
Parce que tu as pris le U-Bahn et pas le S-Bahn.
Voilà. Et du coup, effectivement, tu te rends compte. Et donc, effectivement, ça m'a donné cette information quand même. Parce que le côté plusieurs personnes, chacun à leur façon, je me dis ok, c'est un ensemble drama avec des destins croisés. Spoiler alert.
Et donc. Donc moi, donc ma mon expérience est donc ouais toute particulière parce que bon c'est mon tout premier festival et c'est vrai et vu que c'est le film d'ouverture il y avait une grosse pression par rapport à ça parce que enfin c'est le début quoi donc faut que tu te dis surtout enfin moi festival ça a une je dirais que ça a une connotation de film un peu triste ou film je dirais pas chiant hein. Mais je dirais des trucs un peu lourds, tu vois. Enfin, souvent, c'est pas des films faciles, en fait, dans les festivals. Je me dis que souvent, surtout Berlinale ou Cannes. Enfin, c'est les deux que j'ai mis cette image de films lourds et pas faciles à regarder.
Avec des sujets durs.
Exactement. Donc, il y avait un peu de pression, tu vois, parce que le film arrivait avec ça. Et en fait... 2 minutes et demie, ça déjà c'était bien parti quoi. T'as toujours, je suis restée pendant tout le film quand même avec cette attente du drame parce que je pense que c'est plus pas par rapport au festival mais par rapport au film en général en fait, par rapport à mes déceptions cinématographiques qui sont que c'est rare de voir un film avec un message positif en fait. Donc je sais que
surtout les films un peu sociaux engagés voilà. En fait.
Et le truc je m'attends toujours à tu vois t'as des scènes sans parler du film en général hein, c'est juste que tellement t'as des scènes qui arrivent et tu te dis ah il y a le drame, il y a la chute, il y a le drame qui va arriver, etc. Et en fait ce film m'a fait vraiment m'a fait plaisir parce que ça n'a pas je veux dire ce côté drame n'est pas arrivé en fait.
Ouais, c'est pas le côté alors avant qu'on parle du film en prison, je propose qu'on parle encore un petit peu du film sans donner de détails spécifiques. Et qu'ensuite, vous pourrez voir, il y a un chapitrage dans le podcast. Il y a une partie qui sera vraiment spoiler pour ceux qui veulent savoir vraiment ce qui se passe dans ce film et qui sont curieux. On va en parler en détail. Enfin, en détail. On va se permettre de rentrer dans quelques détails. Donc voilà, vous pouvez continuer à écouter sans trop vous inquiéter pendant encore quelques minutes. Et on vous préviendra quand on passera au passage... spoilerisant réellement. Alors parlons de ce film sans en parler, sans spoiler les gens. Du coup, qu'est-ce qui pour l'instant... Mais je suis assez d'accord avec ce que tu dis Marine, parce qu'il y a vraiment le côté... je m'attendais à... En fait, j'ai dû me reprendre plusieurs fois pendant la séance à me rappeler qu'on était à la Berlinale et qu'on était en festival et qu'on était là entre guillemets pour travailler. Il y a quelque chose... Alors quand je dis travailler, c'est particulier parce que l'intérêt du festival, c'est que... Il y a tout un tas de choses qui sont attachées au festival, je pense surtout dans une culture cinématographique française où il y a Cannes, qui est une espèce de truc, qui un spectre qui nous hante, à la fois comme un endroit extrêmement convoité et un endroit qui a l'air compliqué à vivre et à survivre. Mais je pense qu'il y a aussi l'idée, un festival, c'est un endroit où on va tout d'un coup voir un éventail de choses qu'on n'aurait pas l'occasion de voir ailleurs, donc on s'attend à quelque chose qui va pousser un peu les limites, qui va nous mettre mal à l'aise, nous malmener, nous surprendre, nous... Voilà. Et effectivement, il y avait quelque chose de tellement feel good, bien que les thématiques du film ne sont pas spécifiquement feel good, mais c'était tellement On avait tellement d'empathie et de chimie et de sympathie pour les personnages que j'avais presque l'impression que c'était le film qu'on avait décidé de voir le samedi soir parce qu'on était parce que la semaine avait été difficile et qu'on avait bien mérité de voir un film qui faisait du bien. Et ah non, mais en fait, on est dans le premier jour d'un festival. Alors du coup, moi, je suis sortie avec l'inquiétude que du coup cette bonté, The Kindness of Strangers, cette bonté du film soit peut-être mal reçu. J'avais envie de le protéger, en fait, le film. Mais du coup, au-delà de ce côté feel good et tout ça, quelles sont les choses que vous avez vraiment envie de partager avec nos auditeurs sur ce film pour quand il arrivera vers eux ou avant qu'il arrive vers eux?
Pour moi, c'est un film qui met en scène et qui déroule des grosses phobies sociales qu'on peut avoir, ou en tout cas... que je peux avoir, hein, cette idée de tout perdre et de devoir s'enfuir et de tout faire et de lutter pour protéger les siens. Voilà, j'essaie de dire les choses de façon un peu vague pour pas rentrer complètement dans le cœur du sujet, mais ça représente ce qui peut être un des pires cauchemars pour beaucoup de gens, hein, cette crainte du dénuement et de la fuite. Et c'est fait avec beaucoup de délicatesse. Il y a quand même la chape de plomb, la violence, la peur d'une personne violente qui plane sur le film. Et en même temps, on nous en préserve, on en préserve les personnages. Les personnages ont déjà tellement souffert avant le moment où le film nous permet de les découvrir que le récit et la caméra les protègent en permanence, comme les personnages avec lesquels ils vont interagir les protègent. Je trouve ça très beau. Moi, je trouve que, enfin, tu parles de feel good movie. Moi, je ne l'ai pas ressenti comme ça. Hein. Pendant au moins les deux tiers du film, c'est un film qui m'a beaucoup secoué, et je trouve que les traumas qui ont été vécus par les personnages sont signifiés de façon très délicate mais très intelligente.
Oui.
Tout ce qui est abîmé chez les personnages principaux est très visible. Il y a une subtilité de jeu que je trouve très belle et qui a été très efficace sur moi. Qui m'a beaucoup touchée. Alors après, est-ce que ce film m'aurait autant touché dans une semaine après avoir vu je ne sais combien de films? C'est vrai que parfois notre capacité d'émerveillement, malheureusement, peut diminuer au fil des jours parce qu'on va accumuler des films et qu'on va forcément juger les films les uns à l'aune des autres, qu'on le veuille ou non, même de façon inconsciente. Et puis parfois, encore au bout d'une semaine ou 10 jours, on s'enthousiasme, puis on sent, puisque ce que j'aime en festival, c'est que les émotions sont exacerbées. Quand on aime, on adore avec passion. Et puis quand on déteste avec rage. C'est que tous les curseurs sont complètement faussés. On est tout le temps dans l'extrême, et c'est ça qui fait la richesse de l'expérience, quoi. Qu'on soit là pour travailler ou pas, il y a cette espèce d'expérience humaine ultime. Et là, en arrivant juste, on va dire, au niveau, en ayant l'aiguille des émotions au niveau médian pour commencer, ben, j'ai été dans une grande passion pour ce film. Voilà, que je trouve très juste dans sa délicatesse.
C'est marrant parce que la façon dont tu décris le film, c'est la même façon que je l'aime, mais d'une façon différente. C'est-à-dire que pour moi, ça parle, ok, de problèmes, enfin de... Le sujet est dur, mais alors moi, j'ai pas pleuré, j'ai trouvé ça tellement positif, en fait. Ça te parle de... Si, ça te parle de choses... De choses dures, poignantes et triste en même temps, tu vois. Mais la façon dont c'est raconté, moi, je le vois... j'ai pas versé une larme, en fait. Je veux dire, le truc, c'est que ça m'a émue. Ça m'a très émue, beaucoup émue et pris, genre, mon petit cœur, ça me l'a compressé, mais compressé dans le sens où... Et en même temps, compressé et...
Gonflé.
Recouvert d'une petite couverture chaude. Tu vois ce que je veux dire?
C'est beau ce que tu dis, Marine.
Et en gros, je veux dire, moi, c'est un film qui m'a tellement rassurée. Plus ça avançait, plus je me sentais
protégée par
le film, en fait. Et je me suis pas du tout... c'est pour ça que, justement, ce que je disais avant, en disant où j'attendais, en fait, qu'il y ait ce côté drame qui arrive, tu vois, ce côté...
La punition.
Une sorte de truc en disant, je m'interdisais un peu. Je me disais, c'est pas normal que ce film me fasse cet effet de comfort, blanquette, c'est ça, comme une blanquette, comme une blanquette.
Comme une couverture de sécurité.
Une blanquette de veau.
Security blanquette.
Security blanquette, c'est une couverture de sécurité, en fait.
Oui, enfin, un doudou, quoi.
Et le mot, c'est doudou. Je me sentis légèrement un peu coupable en me disant, mais il va se passer un truc catastrophique qui va me faire tomber de mort, tu sais, enfin... qui va déchirer cette couverture de sécurité, quoi.
Oui, on attend le deuxième effet qui se court, on attend la punition de Ken Loach, en fait. Mais je veux dire,
exactement, Ken Loach, c'est un truc de Ken Loach, c'est un truc de festival, c'est Stephen Fry, c'est des trucs genre... Hop.
Non, mais on attend I, Daniel Blake, quoi.
Ah oui, alors là, ça...
J'ai pleuré.
Daniel Blake, effectivement, tu pleures, mais tu sais que dès le début, le film est là pour te faire pleurer, en fait. Non, mais sauf que
moi, jusqu'au bout, j'ai cru.
Je trouve que là, c'est pas du tout le même type de larmes, en fait.
Je suis d'accord, sauf que je suis sortie de Daniel Blake.
Daniel Blake, c'est This Is Us.
Non, parce que This Is Us, c'est pour pas... Pour moi, This Is Us, c'est pas juste et c'est pas intelligent. Alors que Daniel Blake, je trouve ça juste...
This Is Us, je vais me regarder jusqu'à la fin.
Non, mais This Is Us, je pense que Daniel Blake, c'est juste terrible, mais c'est juste. Le truc, mais I, Daniel Blake, je me rappelle très bien, on est sortis, on est allés tout début janvier, parce qu'il est sorti plus tard en Allemagne, et on est sortis du truc, et on marchait à côté de nos vélos, et j'ai dit à Marine... Je pense que quand même, je devrais aller voir un psychiatre et me faire... comment dire, pas diagnostiquer, qu'on me donne...
Medication, la santé,
une
ordonnance.
Oui, me faire prescrire quelque chose, voilà. Donc, c'est l'effet de Daniel Blake sur moi, c'est... En fait, la dépression me regarde de très très près, donc je pense qu'il faut que je fasse quelque chose. Finalement, les choses ont évolué différemment, mais The Kindness of Strangers me fait pas du tout cet effet-là. Effectivement, mais par contre, effectivement, il y a plusieurs moments, il y a des moments très spécifiques où on a l'impression que la tragédie est sur le point de s'abattre sur les personnages, et là, je me suis dit spécifiquement quel type de message serait si ce film montrait cette tragédie-là. Vu ce que le film essaie de défendre, et vu la décision qui se passe dans la première minute du film, qui est un peu un moteur, même si en réalité il y a plein d'autres personnages qui vivent d'autres choses, mais le moteur de l'histoire principale, c'est quand même cette décision qui est actée dans la première minute du film. Enfin, elle a été clairement c'est une décision qui date d'avant le film, mais on voit l'acte décisif au tout début du film. Si ces personnages sont frappés de tragédie, quelque part, ça invaliderait la justesse de cette première décision. Et du coup, je me suis dit, non, ils ne vont pas faire ça. Ou alors, s'ils font ça, ça va m'énerver. Parce que je trouve ça, vraiment, au niveau du message, il y a vraiment quelque chose de très important. Vu l'histoire qu'on est en train de raconter, il faut faire très attention au message qu'on est en train d'envoyer.
Mais je suis complètement d'accord avec toi, et moi je trouve que là...
Attends,
le film...
section spoiler pour savoir de quoi on parle.
Là où le film est très intelligent, c'est que justement, on ne va jamais chercher à provoquer un événement dramatique. On cherche jamais à faire souffrir les personnages. Et comment le film crée de l'empathie avec les personnages ? Comment le film crée de l'empathie avec les personnages en étant empathique avec ces personnages, en les respectant et en les protégeant ? Tu parles du truc de comment le film les englobe, mais comment il protège les personnages en ne cherchant pas, enfin en les aimant.
C'est ça.
En tout cas, c'est un scénario et une mise en scène qui prouve un amour pour les personnages. On ne cherche pas à les mettre en danger. C'est pas, il n'y a rien de sadique dans le rapport aux personnages. Mais malgré tout, c'est vrai qu'on est tout le temps en alerte parce qu'on a tellement l'habitude de voir des événements dramatiques, des retournements de situation, des soubresauts où les personnages vont souffrir qu'on se dit, mon Dieu, il va leur arriver ça. Ah, la personne qui essaie de fuir va les retrouver. Et donc, on a tout le temps le souffle court.
Alors Marine, j'ai l'impression que tu as un truc à dire.
Je trépigne.
Tu trépignes depuis tout à l'heure. J'interromps Carole, vas-y.
Non, en fait, tu parles des personnages et en fait, le film commence avec une introduction de chaque personnage, en fait. Il te montre la présence des personnages et en fait, la façon dont il présente les personnages te montre la façon dont ils ressentent leur souffrance, en fait, un peu. Par exemple, je vais pas rentrer dans les détails, mais la façon dont il présente les personnages rend le film moins dramatique, en fait. J'avais mon idée bien dans ma tête au début de ton explication, mais en fait, si on se rend compte quand on regarde le film, il y a vraiment cette présentation petit à petit des personnages, et en fait, ils sont sympathiques, je les trouve, en fait, même malgré leur souffrance, ils ont un côté sympathique et ils ont un côté humain qui rend le film... Enfin, c'est là que moi, je comprends que le film n'est pas ce drame...
Oui.
Ce drame de boue. Tu sais, ce...
C'est pas un truc voyeuriste, alarmiste,
misérabiliste.
Exactement. C'est pas misérabiliste.
Tu vois, et en fait, ils vont présenter un personnage avec son quotidien qui est dur. Et en fait, et en même temps, ça te le rend. Il transpersonnage humain, en fait. Donc.
Oui, c'est ça,
tu vois ce que je veux dire.
Oui, en fait, c'est-à-dire que c'est pas des figures tragiques. C'est quand tu les rencontres, tu les vois dans leur souffrance, mais leur souffrance très émotionnelle, très humaine, très psychologique, enfin très tangible, ouais, en fait. Pas dans un espèce d'archétype de souffrance humaine classique. En fait, effectivement, ça nous informe sur l'humanisme.
Tout à fait.
Du film. Et du coup, effectivement, ça nous rassure un petit peu.
Et ça nous donne juste un petit peu d'informations sur chacun, en fait.
Assez pour qu'on puisse rentrer en empathie avec eux, en fait, et que se mettre à leur place, et du coup...
C'est pour ça que je croyais que c'était The Loneliness of Strangers, et pas The Kindness of Strangers, parce qu'au début, ça te montre ce côté lonely de chaque personnage, en fait. Comment ils sont tous seuls.
Tu croyais que c'était The Loneliness of Strangers?
Oui, je l'ai dit plusieurs fois.
Ça fonctionnerait tout à fait, comme...
Je pense qu'il y avait... On va arriver quand on avait votre expérience, mais c'est rigolo, parce que du coup, ce que
c'est
tu disais,
début,
Carole...
C'est le début, je te parle de loneliness, après, c'est clair.
Ce que tu disais, Marine, m'a fait penser, en fait, à un truc, c'est... Au-delà d'aimer ces personnages, ce film respecte les personnages. Il respecte notamment leur intelligence. C'est-à-dire qu'ils ne sont jamais absurdes, stupides, ils ne font jamais de trucs idiots. Ce que je trouve. Enfin, il y a un personnage qui est différent des autres, mais c'est, enfin, on sent que ce n'est pas pour des raisons de... Enfin, ce n'est pas des abrutis. Il n'y a pas ce côté... l'histoire n'arriverait pas si ces personnages étaient moins cons, par exemple. Qui est un truc qui me court sur le haricot de façon systématique dans la fiction. Mais... Il y a vraiment, ils sont respectés pour leur intelligence, mais aussi ils sont respectés pour leur limites, en fait. C'est-à-dire qu'ils sont, ils se livrent pas tous complètement, et la caméra ni les autres personnages n'essayent de violer leur sphère privée, en fait. Je pense par exemple à un des personnages secondaires qui est Bill Nye. Qui était la seule personne que je savais qui était dans le film, qui joue un peu le rôle qu'il joue régulièrement, c'est-à-dire de quelqu'un qui est un peu nonchalant de base. Mais il y a quelque chose de très... et voilà, c'est la pudeur. Le film est très pudique vis-à-vis de la sphère privée des personnages. Et ça, je trouve ça hyper impressionnant, vu qu'on est dans le cœur de leur merde, en gros, soyons clairs. On est en plein milieu de moments de crise, on voit leur tourment émotionnel, et en même temps j'ai écrit un petit truc en anglais que je vais poster sur Instagram, et je parle du fait que parfois elle est très très proche avec sa caméra des personnages, et parfois elle leur laisse un peu de distance, et il y a vraiment cette idée de la pudeur, qui est d'ailleurs une pudeur que beaucoup de personnages exercent les uns avec les autres. Il y a beaucoup de respect et de pudeur et d'humanité dans la façon dont ces strangers se traitent les uns les autres.
Bill Nye, j'ai oublié, mais il joue aussi dans Their Finest, en fait. J'avais oublié qu'il...
Ah, mais oui, bien sûr.
Elle l'a mis dedans, tu sais. Enfin, oui, elle l'a mis dedans. Genre, elle l'a pris, elle l'a mis dans son film.
Effectivement, non, mais, il joue dans Their Finest. Tu vois ce film.
je sais pas s'il a joué dans d'autres films. J'ai oublié s'il avait... Si, il joue pas dans... Je sais pas s'il joue dans les autres, mais en tout cas, elle a un lien.
Vous avez vu, vous, Italian for Beginners?
Oui.
Non.
Let's watch it. Et du coup, y a beaucoup de gens apparemment qui ont fait déjà des liens, apparemment aussi dans la conférence de presse, il y a des gens qui ont posé des questions sur le lien entre les deux films. Il y a le côté choral déjà. Mais effectivement, je pense qu'il y a un truc...
Mais je connais l'histoire et je connais le film, en fait, de Italian for Guinness.
Mais en gros, le principe du film, moi je me rappelle de ce film comme un moment hyper jubilatoire à cause de l'humanité absolue avec laquelle ces personnages étaient traités, et il y avait quelque chose de l'ordre du merveilleux, du conte de fées ordinaire, en fait. De gens qui sortent de leur quotidien ordinaire, parce que pourquoi pas, parce qu'ils peuvent, parce qu'ils décident d'eux, notamment de se tendre la main et de s'entraider.
C'était déjà un film sur la connexion entre les êtres.
C'est ça. Bon.
C'était quoi le titre français?
Italian for Beginners.
C'était le titre allemand aussi.
Il est sorti en quelle année?
J'habitais Stuttgart.
2000.
Oui, mais bon, ça...
Donc c'est entre 2000 et 2005. J'étais déjà avec Jürgen, c'est entre 2001 et 2005.
C'est quand j'étais étudiante à Lyon.
D'accord.
Non?
Ouais, je pense que c'était 2001 ou 2002.
Oui, donc c'est quand j'étais fauchée que j'avais
les,
pas pris.
Les pages, Carole cherche dans le dossier de presse.
Mais c'est tout le bruit, c'est ça?
Oui, c'est ça, parce qu'il y a les pages qui... Creative Biography.
Alors, le film était à la Berlinale en 2001, Italian for Beginners.
Ok, donc il est sorti souvent... à l'automne 2000.
Et entre-temps, elle a eu
gagné l'Ours d'Argent.
Ouais, quand même.
Oui.
Et entre-temps, elle a fait il y avait An Education en 2009 aussi qui était à la Berlinale. Moi, je me rappelle de ce film comme un film. C'est vraiment Cara Mulligan était en train d'exploser partout et je me rappelle que je n'ai pas vu ce film. Tu l'as vu, toi, An Education?
Non.
Toi, tu l'as vu?
Je l'ai vu et puis, mais je. J'ai pas un mauvais souvenir de ce film en fait. J'ai un bon souvenir, mais pas un mauvais. Enfin, j'ai pas un bon ni un mauvais souvenir. Je sais que je l'ai vu, mais c'est pas un film qui m'a fait une.
Grosse impression.
Une grosse impression.
À voir, à revoir. Ok. On spoil? Allez, on spoil. Donc on spoil. Est parti, maintenant on parle directement de l'histoire du film.
Faut acheter un gong, un truc.
Ding! Donc Carole, tout à l'heure je t'ai empêchée, t'étais sur le point de raconter l'histoire. Tu veux la raconter maintenant ou tu veux que je le fasse? Vas-y, comme tu veux.
J'étais sur le point de parler de ce personnage féminin. Vas-y. Qui, même si on est dans un cast d'ensemble, organise quand même le lancement du récit. C'est autour d'elle que beaucoup de choses vont se cristalliser. Le personnage de
Clara.
De Clara, interprétée par Zoé Kazan, avec lequel moi j'ai été en empathie tout de suite, dès la première scène. En raison, je pense, de la délicatesse de cette mise en scène. Alors, je vais juste parler des premières images du film, hein, pour qu'on ne parle pas uniquement de récit, mais aussi de ce qui se passe en images sur l'écran. Mm-hmm. On a donc cette femme couchée dans son lit, dans la pénombre, avec juste une main qui la couvre, hein, la main de son compagnon qu'on la couvre. Il y a déjà cette main qui est à la fois posée délicatement, mais qui est une emprise sur le mouvement de son corps. Dont elle se dégage, elle se lève très doucement pour aller réveiller ses enfants en leur murmurant de se réveiller au coin de l'oreille. Donc il y a cette très grande douceur qui émane de la relation avec ses enfants. Et puis on sent aussi une sensation de secret à ce moment-là. Donc on est dans la pénombre de cet appartement, très silencieux. Et on comprend très vite en fait qu'elle est
relevée. La première phrase, c'est « It's time to go ». ».«
It's time to go ». Et on comprend qu'il faut se lever. C'est pas juste on se lève le matin pour aller à l'école, c'est qu'on se lève pour fuir. Et qu'à pas de loup, dans cette ambiance très feutrée au niveau sonore et visuel, on va s'échapper de cet homme qui est endormi, donc qui, à l'image, est présenté comme un être dans la plus grande vulnérabilité, dans la plus grande douceur. Il est étendu dans son lit, endormi, très paisible. Mais on comprend très bien que cet homme est un être menaçant, qu'il faut fuir le plus vite possible. Et je trouve ça extrêmement bien géré, la façon dont, en quelques plans, avec une économie de dialogue exceptionnelle, on arrive à montrer le poids de cette menace, la peur, le danger et la nécessité de la fuite qui va se prolonger tout au long du film jusqu'au moment où tous les destins croisés dont on a déjà un peu parlé vont se réunir et que l'effet de la gentillesse des uns sur les autres va aider en particulier cette femme à survivre et à s'échapper à ce qui aurait été le bourreau de cette famille et à s'épanouir, à se réaccorder aussi avec sa propre féminité qui est évidemment oubliée, qui a été mise à mal par son parcours avant le début du film, avant le moment où on la découvre.
Et d'ailleurs, dans ce moment, ce qui fait tout de suite que tu comprends l'urgence de la situation, c'est qu'elle réveille son premier fils. Alors moi, j'y connais rien en âge d'enfant, mais j'imagine qu'il a, je sais pas, 9 ans, 10 ans. Le plus grand des deux. Il a quel âge?
Je dirais qu'il a 10, ouais.
Je peux, au moins 10 ans.
Voilà, mais pas beaucoup plus, on est d'accord. Parce que l'autre, il a plus 5 ans, quoi.
Ouais.
Ouais, enfin,
Jude,
je dirais 6.
Bon, 6, en tout cas. 7, 6, en tout cas, le grand... mais qui n'est pas si grand que ça, quand elle lui dit « It's time to go », il réagit immédiatement dans le plus grand silence, il fait « Yes, et ok ».
On sent qu'il est au courant, il sait
que c'était... Il sait, et il fait très attention partir. Et qu'il faut faire très gaffe et qu'il faut aller vite. Donc, il a peur. Donc, ouais, c'est vraiment une fuite. Voilà, pas juste besoin d'expliquer à ses enfants. J'attendais pendant tout le film, en fait, qu'il y ait un moment de... des gamins qui disent « Ah, mais je veux retrouver papa » et tout. En fait, c'est assez impressionnant à quel point... Et justement, je pense que c'est plus réaliste que d'autres versions, à quel point les gamins ont tout à fait conscience que le père est un danger ambulant
et qu'ils n'ont aucun danger
d'être...
Mais t'apprends petit à petit que...
Jusqu'à quel point, mais c'est vrai que j'attendais quand même le moment, tu sais, qu'un petit se dise « Non, mais moi j'aime bien... » Enfin, tu vois, puis bon, malheureusement, on sait très bien que dans les relations abusives, surtout avec les parents, il y a une confusion des fois entre la violence exercée et l'amour, donc...
Bien sûr.
Mais du coup, ce truc de... Non, en fait, personne ne veut voir ce père et ils ne veulent pas rentrer et ils ne veulent pas se plaindre d'être...
Oui, mais tu as cette notion au départ, justement, où elle parle, on est en vacances, je veux vous montrer New York. Mon papa n'aime pas New York. Je fais, oui, mais bon, on ne sait pas. Enfin, on n'y est jamais allé. On faut voir. Peut-être que ça peut être intéressant. Et en fait, et au bout d'un moment, elle ne parle plus de vacances, en fait. Elle dit que c'est fait...
D'ailleurs, le gamin lui dit, on n'est plus en vacances.
On n'est plus en vacances.
Non, on n'est plus en vacances.
Et genre, ça, maintenant, c'est réel.
Et c'est intéressant combien de fois le fils aîné, en fait, est celui qui va éclaircir la situation, hein, pour sortir finalement sa mère du déni. Comme si sa mère, à plein de moments, crée un petit peu un récit pour rendre ce moment hyper traumatique de leur existence plus léger. Et finalement, eux n'ont pas besoin d'être convaincus. Ils acceptent beaucoup plus la dureté de la situation qu'elle, et c'est presque elle qui s'en protège. Donc c'est lui qui dit non, on n'est plus en vacances. Et puis à la fin, c'est lui qui va demander à sa mère de se pardonner de certains événements qui ont lieu dans le film. Donc c'est toujours lui qui va avoir la parole qui permet à la mère, qui permet à l'adulte de faire face à la réalité de la situation. Je trouve que les enfants, ce gamin est vraiment hyper, hyper intelligent, hyper lucide.
Et en même temps, il n'y a pas de lutte de la part de Zoé Kazan. C'est-à-dire qu'il n'y a pas de... Elle n'essaye pas de leur mentir. Enfin, dès qu'il commence à dévoiler le truc, elle fait « oui, t'as raison ». Il y a quelque chose de très honnête et de très sincère dans leur relation.
Elles sont très complices.
Et des moments qui sont vraiment, vraiment bouleversants sont des moments où tu vois que le gamin, il craque sous la pression, mais qu'il essaye de ne pas le montrer à sa mère.
Et il essaie de lui montrer aussi qu'il est in charge, un peu. Tu sais ce que je veux dire ? C'est qu'il est, il veut la protéger. Il a un côté où il veut la protéger, mais en même temps...
Mais pas de façon unhealthy, je trouve.
Mais pas justement unhealthy, comme tous les films que tu vois où t'es des gamins... justement,
c'est trop.
Ça reste un petit garçon qui... Mais il voit
que ça, tu sais, quand cette scène où
sa mère, elle dit, t'endors pas, enfin, il faut que tu...
Open your eyes.
Et finalement, il est trouvé par quelqu'un d'autre, etc. Mais c'est plus une façon de retrouver sa mère, enfin, d'être aidé, tu vois. Je veux dire, il est capable de demander de l'aide. Mais en même temps, comme un petit garçon, pas comme quelqu'un qui va jouer l'adulte et qui va s'occuper d'elle, tu vois ce que je veux dire?
Mais le truc au départ, c'est que... Mais c'est quand même la scène où il y a un mec qui le trouve en train de pleurer.
Oui.
Et ce truc qu'il n'ait pas pleuré devant sa mère, il ait pleuré, qu'il ait eu peur d'exprimer cette émotion, et en même temps sa mère veut pas l'empêcher d'exprimer cette émotion. Et en plein temps il y a ce truc, ils ont vraiment le temps de sombrer dans une situation vraiment difficile avant d'être entre guillemets sauvés par les concours de circonstances du film. Et encore, il y a aussi quand même l'idée de, bon, il y a vraiment presque quelque chose d'injuste, quoi. C'est-à-dire qu'ils sont sauvés parce que Il y a un truc qui se passe entre elle et un mec, enfin qui se passe, il y a un courant qui passe parce qu'il se passe rien d'autre à ce stade-là, mais entre elle et un mec, et que quelque part, enfin, du coup, vu qu'il l'a rencontrée avant qu'elle soit en détresse, il y a quand même le côté qu'il repense à cette meuf qu'il a croisée,
oui,
qu'il a
trouvée
trop belle, et donc là, il la retrouve, elle est en détresse et il l'aide. Du coup, quelque part, ça.
Surtout, il a remarqué qu'elle était là, mais il s'est jamais. Il n'a jamais essayé, tu vois, de l'aider avant.
Quand est-ce qu'il a remarqué qu'elle était là?
En fait, elle lui dit, oui, j'étais dans l'allée, je me garais dans l'allée,
ah,
etc.
Oui.
Il a fait, I know, genre trois fois, machin, etc.
Il
l'a vu plein de fois se garer, mais il n'est jamais passé, il l'a laissé tranquille, en fait. Il l'a pas dérangé, il a accepté. C'est pour ça qu'à partir du moment où elle s'est quand même mise sous la table.
Sous le piano.
Et en fait, il l'a laissée là, quoi.
À un moment donné, elle est vraiment dans une très très grande détresse. Elle a vraiment plus rien.
Ça m'a donné envie de bouffer du caviar, d'ailleurs.
C'est le moment où elle vient se réfugier à l'endroit où il travaille, que là, il va se permettre d'intervenir.
Et parce que du coup, au cœur de ce film, il y a un espèce de restaurant russe qui est en déperdition au départ et qui reprend le jour au début, vers la fin. Ce personnage, Marc, qui est un personnage qui est en détresse, c'est un mec qui sort de prison.
Donc Marc, c'est le personnage interprété par Tahar Rahim.
Pardon. Désolée d'objectifier, ce n'est pas Tahar Rahim que j'objectifie, c'est son personnage. Je tiens à le dire, c'est qui est absolument bouleversant à tout point de vue dans ce film, y compris dans les moments où il joue moins la carte du charming, parce que quand Zoé Kazan n'est pas dans l'écran, il est beaucoup moins charming. Enfin, il sourit à ses clients, mais sinon il sourit peu. C'est vraiment juste dès qu'elle apparaît à l'écran, tout d'un coup lui il s'illumine de l'intérieur.
En même temps, il est quand même charming même dans les meetings.
Oui, mais ours mal léché que charming comme il est avec elle. Alors quand il est avec elle, il a les yeux, l'œil humide et le regard rêveur. Mais non, il y a quelque chose de ce truc, ce mec qui sort de prison aussi à cause d'une situation désespérée. C'est clair. En l'automne. et qui, à cause de The Kindness of Strangers, parce qu'il se retrouve à parler avec des gens qui sont à la recherche de quelqu'un pour prendre le restaurant et trouve un job, quoi. Et trouve un endroit où vivre. Il y a vraiment ce truc de tout est possible si on n'est pas guidé par la méfiance et la peur. Tout est possible. Ça ne veut pas dire que les choses ne sont pas dures et compliquées, mais tout est possible. Et qu'est-ce que c'est grave. Et je voudrais quand même qu'on parle un peu de ce personnage d'Alice.
Il repasse demain soir, hein, je crois, à 20h.
Hein. Oui, ça, c'est les plans de début festival où on veut revoir les films.
À 19h demain.
Ah, on sera en train d'enregistrer un deuxième podcast demain à 19h.
Ou pas. Si vous n'avez pas de podcast demain, vous saurez pourquoi. Non, mais parlons un peu de ce personnage d'Alice. Je la trouve aussi. Donc, c'est un autre personnage, entre guillemets, secondaire, mais enfin, un des autres personnages principaux, que je trouve un personnage assez intéressant. Parce que j'ai l'impression pas du tout commun à la fiction, en fait.
C'est sur elle, justement, que justement ma dessine des personnages dont j'en parlais tout à l'heure, où, en fait, il te la présente d'une façon... tu vois qu'elle est entourée de tristesse, en fait. Tu vois, c'est pour ça que The Loneliness... Et elle a l'air très lonely, en fait. Le fait de travailler dans les urgences, d'avoir tout ce côté...
Et donc, elle est infirmière.
Oui, elle est infirmière urgentiste. Et elle a... Donc, c'est son boulot de journée, en fait. Et à côté de ça, son temps libre, elle s'occupe de la soupe populaire dans une église. Et à côté de ça, elle a un groupe de...
De soutien.
De soutien, mais alors, de soutien de quoi, je ne sais pas. J'ai pas trop...
Forgiveness.
The forgiveness, oui.
Donc, c'est les gens qui ont besoin de se faire pardonner ou de se pardonner,
etc. Même. Donc, elle est là, elle écoute et elle donne son temps pour les autres, en fait. C'est vraiment genre... Et en gros, tu vois qu'elle est entourée de tristesse et de tristesse et en même temps, c'est
de
la
détresse.
Personne de détresse et c'est la personne la plus kind, justement kindness. C'est la personne qui donne le plus de choses et en fait, c'est vrai que moi, ça m'a vachement rassurée cette entrée en matière de personne seule comme ça qui donne tout son temps et qui est tellement gentille, enfin qui te prend, enfin tu sais. T'as l'impression qu'il te prend dans ses bras alors qu'en même temps elle est éloignée, tu vois ce que je veux dire,
elle a une certaine distance,
elle a une distance par rapport à tout et en même temps en se donnant limite à 100% parce que tu vois qu'elle a des moments elle pleure, elle en peut plus, quoi.
Bah, c'est rigolo, c'est pour ça que je dis que c'est pas commun, parce que c'est vraiment quelqu'un qui a pas de conflit, qui a pas l'air d'avoir un conflit interne et qui est presque en dehors de toute la réalité. C'est-à-dire que, généralement, dans la fiction, les personnages sont définis par leurs enjeux, leurs désirs, leurs besoins. Et vu qu'elle, tout son temps, elle le consacre aux autres, et elle agit par rapport aux besoins des autres, ben, ça pourrait... Enfin, c'est pas habituel. Et en même temps, c'est quelque chose qui existe dans le monde, de personnes comme ça qui sont pas vraiment... C'est pas qu'elles sont selfless... C'est qu'elles n'ont pas le temps, pas le courage, pas l'énergie, pas la possibilité de réaliser quels sont leurs besoins à eux. Donc, ils utilisent leur talent et leur temps et leur énergie pour aider les autres.
Et en même temps, je trouve qu'elle a, elle est ce lien entre tous les autres, en fait. Parce que,
c'est elle qui change la vie de tout le monde, en fait.
Et puis, c'est elle qui fait rencontre. Enfin, tous les gens se rencontrent, d'une certaine façon.
Bah, alors, je suis en réfléchir. Bah Jeff, elle lui trouve un travail.
À la fin, c'est oui, elle trouve un
donc Jeff. Elle va accueillir Clara.
Clara, c'est elle qui l'accueille. C'est elle qui l'emmène chez Marc.
C'est elle qui l'emmène chez Marc au restaurant. C'est elle qui, presque, qui la met en contact avec un
aussi avec l'avocat.
Avec l'avocat, enfin le truc, parce que finalement.
C'est pas Marc, mais c'est pas Alice.
Oui, enfin, de toute façon, tout ce que je veux dire, c'est que.
C'est le fait que Alice dise, quand elle les voit, vous avez nulle part où aller, bon, bah, vous pouvez dormir.
Et surtout, elle pense directement aux gens qu'elle connaît, etc. Tu vois, genre, elle fait le lien
entre les gens.
Elle sauve, enfin, et puis elle va pas réfléchir.
Et genre, parce qu'elle pense qu'elle ne sert à rien et que personne ne l'aime. C'est-à-dire le connard
ouais, qui
Ivo, maniaque, mari de Clara, qui lui dit personne ne. C'est parce que c'est que l'amour, personne ne vous aime. Et je m'appelle, mais littéralement, Marine a dit « asshole » à ce moment-là. Mais c'est vrai que ce qui prouve à quel point on était dans le film, c'est qu'on était complètement incapable.
La réponse que le film donne en plus à cette déclaration est très intéressante.
Oui, parce que justement, dans la scène, c'est la scène d'après, c'est ça. On découvre qu'en fait, un des personnages est amoureux d'elle. Et donc, c'est très touchant.
Non, mais moi j'adore la scène avec l'autre Jeff qui lui propose, qui lui dit, je dis pour le proposer, pour la remercier, de coucher avec elle, pour la remercier, pour la réhabituer.
Oui, parce qu'elle lui dit qu'elle n'a pas couché avec quelqu'un depuis longtemps, elle fait bah on peut faire une ou deux fois hein, juste pour que vous.
Vous réhabituez quoi.
Enfin, vous êtes non, pas
merci,
trop.
C'est sympa, c'est une sympa après, et puis, proposition, mais ça va aller, merci.
Et le truc, c'est qu'elle lui répond d'une façon tout à fait. Genre, elle y pense en disant, genre, non.
Elle dit, mais quand même, genre, faire, elle dit, oui, il y a répétition, à la fin de la répétition de l'orchestre, parfois, elle fait, mais faire ça dans la salle de musique. Elle fait, mais non, on aurait pu mettre sur la piano, mais non, on aurait pu mettre des coussins par terre.
Mais quelque chose de très digne dans cet échange qui aurait pu.
Mais Jeff, c'est un personnage incroyable.
Il est génial.
C'est un personnage qui, clairement, a un souci. Alors, on ne sait pas exactement c'est quoi son souci, mais clairement, il a un souci de logique et de vision. Tu te demandes même s'il y a un truc de. Est-ce que c'est une déficience mentale? Est-ce que c'est un truc neurologique? Ça peut être plein de choses. Mais clairement, c'est un mec qui, du coup, perd job après job parce qu'il ne sait pas fonctionner comme quelqu'un de normal, entre guillemets. Et du coup, se retrouve en rencontrant Alice à avoir cette. Déjà, c'est génial, il cherche un job, il voit une queue, donc il cherche un job, donc il rentre. Puis découvre en fait que c'est de la soupe populaire. Et sa première réflexion, c'est de dire, vous êtes là pour aider? Il fait OK. Et devient bénévole à la soupe populaire alors qu'il n'a pas de travail, il n'a pas de maison. C'est vraiment touchant. Et en fait, effectivement, suite à une catastrophe de froid, exactement comme plus tard, il se retrouve à travailler pour l'église où Alice a son groupe. Et c'est vrai que ce truc de la... En fait, j'ai lu une interview, un bout d'interview dans Vanity de Launay, la réalisatrice, qui parle du fait qu'un des trucs dont elle voulait parler, c'est l'incroyable niveau de charité à New York. Et ça, je pense que c'est quelque chose de vraiment intéressant, surtout d'un point de vue européen. On ne se rend pas compte à quel point la charité est vraiment quelque chose qui fait partie du quotidien de beaucoup d'Américains. Comme quoi, le bénévolat, c'est un truc, quand tu réalises, quand tu écoutes parfois certaines célébrités parler de leur temps libre, tu réalises le nombre de gens qui consacrent du temps, de l'argent, des choses aux œuvres charitables, aux œuvres caritatives. Et bien sûr, c'est des choses qui existent en Europe aussi, et que beaucoup de gens... que certaines personnes, dont certaines personnes s'occupent, mais c'est moins généralisé. Et notamment, on a moins l'idée que c'est positif de parler à quelqu'un que tu connais pas dans la rue pour l'aider, quoi. Effectivement, dans mon expérience de New York, alors que New York a une vision un peu négative, mon expérience de New York, c'est que tu commences à ouvrir un truc qui ressemble à un plan, et t'as trois personnes qui fait « Are you lost? Do you need help? Where do you want to go? What can I do for you ?»
Moi, je l'ai vécu plusieurs fois aux États-Unis, à différents endroits, et aussi sur la côte ouest. Et c'est vrai que la première fois en tant que Français que tu mets les pieds aux États-Unis, que t'as à peine regardé ton plan et qu'on t'aide, ça surprend. Tu te rends compte que ça fait partie d'une culture en fait, cette idée de l'entraide. Parce qu'on peut percevoir de l'extérieur les États-Unis comme un espace où justement on a beaucoup de communautés dressées les unes contre les autres. Mais en tout cas, il y a cette idée de l'accueil, de la protection qui est très très forte. Et ce réflexe de venir en aide à quelqu'un qui semble perdu ou vulnérable dans la rue, c'est... Et ça fait du bien, c'est hyper rassurant, quoi.
Moi, je me rappelle, le premier soir, j'étais avec ma valise, une gamine de 19 ans, avec ses écouteurs et tout, qui me regarde, si vous avez besoin d'aide pour porter votre valise, enfin... En plus, une fille, enfin, c'est idiot, mais en France, on serait habitué, ou en Allemagne, on serait habitué à ce qu'un homme se propose pour aider à porter une grosse valise. Désolée, mais c'est mon expérience représente ça, sans vouloir dire que les femmes ne veulent pas aider à porter des valises, mais c'est vrai que ça m'a vraiment surpris, et au bout d'une semaine, deux semaines... J'étais passée au mode, j'arrive dans le métro, je sais pas où je suis, je fais « Excusez-moi !» Et n'importe qui, et les gens t'aident en fait. Mais tu dis « En fait, je peux compter, je peux demander à n'importe qui, je peux parler à ces gens qui sont à côté de moi. » Et c'est vrai que, du coup, c'est pas surréaliste comme film.
Non, et ce que je trouve très beau, ce que j'ai réalisé en t'écoutant, là, justement, quand tu parlais justement de la charité et du don, c'est comment dans le film, en permanence, on n'a que des personnages qui sont dans le don d'eux-mêmes, qui sont ouverts sur l'extérieur. En particulier, Jeff qui cherche un travail et qui se retrouve à une soupe populaire et qui va donner, qui donne de lui-même. Et bien, en donnant de lui-même, il va rencontrer la personne qui va lui permettre de se reconstruire et de trouver un travail après, mais pas du tout de façon calculée, en fait. C'est des personnages qui sont dans le don. Et naturellement, c'est très beau, cette idée qu'à un moment donné, l'univers qui s'est souvent retourné contre eux, va se réconcilier avec eux, quoi. Alors ça peut paraître un peu naïf, mais en fait je pense que c'est très juste, et qu'on a besoin de voir des films comme ça, des représentations comme ça, parce que c'est vrai que Marine parlait tout à l'heure du fait que quand on pense festival, on pense à beaucoup des films durs avec des sujets qui secoue, on va voir un peu toute la noirceur et la misère du monde. Et moi, je l'ai ressenti aussi souvent ça en festival, où il y a des journées où on se dit « Ah,
ouais, ça force d'entendre justement les gens qui sont allés, quoi. »
Ouais, j'ai l'impression qu'on m'a mis trois épées à travers le corps, on m'a retourné le cerveau, toutes mes émotions, au secours. Ouais, le monde, c'est de la merde, ok, je suis au courant, mais... mais je pense qu'on a besoin, en fait, de représentations positives et de montrer que... Ah, peut-être que si on était un peu plus agréable les uns avec les autres,
et, kind, tu veux dire,
voilà, plus gentil, ça peut faire effet boule de neige. Et c'est ce qu'on nous montre. Et je trouve ça beau la façon dont le film utilise New York, qui peut être perçue comme une ville immense, tentaculaire, où on va être du coup anonyme et perdu. Et déjà, on voit que les personnages sont sur un périmètre assez restreint, que mine de rien, Clara est en fuite, mais Clara vient se regarder systématiquement avec ses enfants dans sa voiture à côté du même restaurant russe, à venir se cacher.
Parce qu'en fait,
il y a la bibliothèque qui est aussi un lieu très important.
Il y a la bibliothèque à côté, puis il y a l'opéra, il y a une sorte de la maison.
Le concert hall.
Concert hall, qui est juste à côté, donc ça les calme.
Il y a le plaisir d'écouter la musique qu'on perçoit depuis cette allée, donc qui justifie qu'elle revienne à cet endroit-là.
Qu'est-ce qu'ils sont beaux!
Elle se garde dans cette allée parce qu'elle entend la musique et qu'à côté il y a le resto pour aller glaner de la nourriture.
Je ne sais qu'un énorme swoon.
Il y a cette idée que dans une ville qui est immense, où elle pourrait être en fuite et chercher à se déplacer tout le temps pour pas être repérée, même si elle arrête pas de déplacer sa voiture parce que les PV vont faire qu'elle va être repérée par la police, donc par son mari qui est flic. Bah, mine de rien, elle reste dans un petit périmètre, quoi. Il y a cette idée de petit cocon, de petit village, que New York, ça peut être tout à fait une ville qui protège.
Je suis en train de réaliser un truc pendant que tu parles, suite à un truc que Marine a dit à la sortie du film. Donc, l'acteur qui joue Jeff, je me demandais dans quoi je l'avais vu, et Marine a très justement précisé que c'était un des mecs de Three Billboards Outside Ebbing, Missouri, qui est un film qui n'a pas plu à beaucoup de gens, mais qui, nous, on a énormément aimé. Et un des trucs qui était incroyable dans ce film, c'était l'absence de loi. Le fait que la loi n'avait aucun effet. La loi avait de l'effet pour enfermer des gens qui étaient innocents, ou arrêter des Noirs qui n'avaient rien fait. Par contre, aucun acte criminel n'était puni par la loi. Alors que dans les personnages principaux, il y avait des jeunes représentants de la loi. Et en fait, là, t'as dit un truc en sortant, t'as dit « C'est agréable de voir de la justice. »
Oui, c'est vrai.
Parce que dans un pays comme l'Amérique, et comme le nôtre est pareil, où la justice est devenue tellement impuissante vis-à-vis de l'injustice, on est vraiment avec des procédures compliquées, difficiles, et voilà, surtout quand des questions de femmes qui sont sous l'oppression d'un homme, puis surtout là, voilà, c'est un policier, donc ça veut dire qu'en gros, elle est pas protégée par la police. Et c'est vraiment un cas récurrent, j'en parlais, il y a plein de séries où il y a un épisode ou quelques épisodes consacrés à des arcs sur des femmes qui sont comme ça, dans une situation impossible parce qu'elles doivent fuir et changer de nom parce que leur mari abusif est membre de la police, et du coup, elles ne peuvent pas se protéger, ou pire, membre du FBI, enfin, ce genre de trucs. Je ne sais plus exactement le nombre de séries, mais il y en a un certain nombre et qui ont rendu sensible à cette question-là. Et le happy ending de ce film, c'est une décision de justice qui punit et surtout neutralise les effets néfastes du méchant et qui libère les gentils qui n'avaient clairement pas d'espoir dans la justice au début du film.
Et c'est vrai qu'au départ, on n'imagine pas que justice puisse être rendue. De toute façon, implicite, on se dit que oui, forcément, cette femme va être en cavale. Oui, elle va être rattrapée par le mal, M-A-L. Et le mal,
M-A-L.
Avec l'accent circonflexe et le E, hein, c'est le même. Et qui est une figure de l'absence, parce qu'on le voit très peu en plus. C'est une espèce de construction.
Par contre, il est terrifiant.
Ça devient une construction imaginaire, et peu de moments on le voit, effectivement, il est terrifiant.
Je me demandais s'il était là.
Hyper, hyper efficace.
Quand tu le vois dans un magasin, dans un truc chinois.
Il y a un moment donné où.
Oui, parce que.
Il y a cette scène où il les retrouve, c'est pas possible qu'il les ait retrouvés, il apparaît comme ça de façon presque magique. Est-ce que c'est leur peur qui s'incarne à ce moment-là?
Le fait que la voiture se fasse. Prendre.
La voiture soit saisie, ça veut dire qu'il
sait exactement où c'est. Il a dû mettre un truc par rapport à la voiture, enfin, c'est clair.
Mais c'est vrai que c'est quand même magique.
Ce que j'aime dans ce film, c'est que ce manque de... Je veux dire, ils n'ont pas besoin de donner trop d'informations par rapport à ce qui se passe, tu vois, genre...
Mais c'est vraiment parce que c'est bien écrit. Parce que dans un autre film, ça aurait été insupportable, parce qu'on n'aurait rien compris. On dit, mais c'est quoi la temporalité? Ça dure combien de temps? Qu'est-ce qu'ils foutent? Alors que là, c'est tellement émotionnellement juste que tu t'en fous de savoir le nombre de jours qui se passent.
Et je trouve ça... très très fin la façon dont ce personnage du bourreau est construit, parce qu'on le voit très peu et qu'on cherche pas à le charger. dans la représentation.
On n'est pas fasciné par lui.
On n'est pas fasciné par lui. Il n'y a pas de fascination morbide pour cette figure monstrueuse. Mais juste le fait de savoir qu'il existe, tout simplement, suffit à attiser la peur des personnages et la nôtre. Ces rares apparitions en sont d'autant plus efficaces et troublantes.
Ça me fait penser que j'ai trouvé hier, et je vous invite à le chercher sur Internet, je ne sais même plus du coup dans quel c'est en français ou en anglais, mais un article, je pense en anglais, qui disait... qui était sur le fait qu'il y avait toute une mode des documentaires sur les serial killers.
Oui.
Notamment Ted Bundy et tout ça, les dernières aussi, et qui disait... la personnalité des serial killers est généralement la chose la moins intéressante de ces histoires. En gros, qui disait pourquoi est-ce qu'on s'intéresse tant à ces tueurs qui sont en réalité des clichés d'eux-mêmes, alors que ce qui est le plus fascinant dans ces histoires, c'est la vie de toutes les femmes qu'ils ont détruites ou des personnes qu'ils ont tuées, dans quelles circonstances ils ont été. Enfin voilà, en gros, que eux, c'est la partie la moins intéressante de l'histoire, mais c'est toujours le sujet principal. Et là, du coup, c'est très intéressant. Le film évacue ce personnage-là. Et s'intéresse beaucoup plus à des tonnes de figures masculines tout à fait désarmantes et belles et intéressantes. Enfin, il y a quand même 4 hommes positive, qui sont tous hyper bisounours, si vous me permettez l'expression.
Oui, oui.
Entre Bill Nye, qui est totalement désarmant de merveillosité. Marc, qui est... Voilà, bon, on en a déjà parlé.
Marc, c'est... Vas-y, refais le bruit. Voilà.
Je suis désolée d'objectifier ce grand acteur. C'est vraiment juste qu'il a créé un personnage
tellement
réaliste et multidimensionnel que j'y crois comme si c'était une vraie personne.
On en parle que comme d'un bon coréen ou...
Pour les auditeurs de ce podcast, les Cantéry, ils sont un peu perdus. C'est une private joke. Mais en tout cas...
On parle de cuisine, hein. Excusez, un bon coréen.
Oui. Bah, c'est vrai qu'on parlait de serial killer. Excusez-nous, c'est vrai que ça peut partir en cacahuète.
Parce que ce que j'aime bien, c'est les plats coréens avec la cacahuète. Pardon.
Et, ah bon
non, et, mais la figure de Jeff et aussi le personnage de... C'est John Peter qui s'appelle de l'avocat, qui est totalement irrésistible, aussi de façon totalement désarmante et dans l'autodépréciation. Gemma Rochelle est super. Enfin voilà, c'est 4 très beaux hommes qu'on a, plus les 2 petits garçons qui sont des hommes en devenir. Et du coup, je trouve ça hyper fort de réussir à si bien cerner la problématique. D'un mal qui fait peur, alors en entourant quand même ces femmes de personnages masculins, parce que du coup il n'y a que 2 femmes en fait.
Et je trouve que c'est finalement c'est aussi beaucoup un film sur la contamination, donc la peur de la contamination du mal, puisque la mère finit par le dire dans une des dernières scènes, elle est allongée avec ses 2 petits garçons à côté d'elle, de dire vous n'êtes pas comme lui, ne vous inquiétez pas, c'est parce que votre père est violent que vous le serez aussi, mais elle ne l'explicite même pas autant que je le dis là, juste vous n'êtes pas lui, sachez que vous n'êtes pas lui.
Et je trouve ça très
beau.
Vous
n'avez rien de mal en vous. Et je trouve ça très beau, très fort et important qu'elle le dise, qu'elle le verbalise. Parce que c'est une peur effectivement qu'ils peuvent avoir et que même si l'on peut encore, ils puissent grandir avec cette idée-là.
Et la contamination.
Et pour désamorcer la contamination du mal, c'est la contamination du bien. Ça part un peu
manichéen
quand je dis comme ça, mais de la gentillesse.
Et de l'amour, et de l'affection. Cette affection qui se propage petit à petit des personnes, de personnage en personnage.
Il y a cet effet de rayonnement. Ils sont tous un peu dans un même périmètre dans New York et toutes leurs énergies se diffusent petit à petit. Et il y a un autre élément que je trouve très beau dans le film, c'est la place donnée à l'éducation, à l'importance de l'éducation. Cette femme qui fuit en disant « je veux que mes enfants soient éduqués, soient instruits et que l'univers dans lequel ils sont, la violence qu'ils vivent au quotidien ne leur permette pas de s'épanouir dans leur apprentissage, leur réflexion sur le monde. » Et qu'aller à New York, c'est être dans un espace cultivé, un espace éduqué. Et il y a un lieu formidable qui est très bien exploité par le film, c'est la grande Public Library de New York. Moi, j'ai une passion démesurée pour les bibliothèques.
C'était là, je vous rappelle, que Carrie Bradshaw organisait son premier mariage. D'ailleurs, qui était vraiment un scandale, qui n'arrive pas à se produire dans Sex and the City. Quoi ? C'était la culture new-yorkaise. Marine me regarde de façon offusquée parce que je cite Sex and the City.
C'est pas offusqué.
D'accord.
C'est genre, j'étais surprise que tu te souviennes de ce genre de choses.
Bah, ça a marqué un mariage dans la New York Public Library.
Magnifique.
Et c'est parce que j'associe ça beaucoup à Sex and the City, parce qu'elle parle très souvent de la bibliothèque dans Sex and the City, il me semble.
La bibliothèque, c'est aussi un lieu qu'on a vu normalement dans Gossip Girls.
Absolument.
La bibliothèque de... cette grande bibliothèque publique de New York. Et donc, sur le fronton, les façades de toutes les bibliothèques américaines, on a la phrase « knowledge is power », donc la connaissance, c'est le pouvoir. Et je trouve que ça prend un sens... très intense dans ce film-là. On a une femme et ses deux petits garçons qui sont dans une position de faiblesse, dans une position de fragilité, et aller à New York, aller vers la culture et se réfugier dans la bibliothèque, c'est dans son esprit se réfugier dans un lieu de pouvoir. Enfin, il y a la symbolique de la bibliothèque qui est utilisée de façon finalement littérale et très forte. On se cache dans la bibliothèque parce que c'est un lieu où on a chaud, où on ne paye pas pour entrer, on n'est pas obligé d'acheter quelque chose pour consommer ou quoi que ce soit, on peut y passer la journée sans que personne ne vous demande rien. Et en plus, on peut lire, on peut aller sur Internet, on peut faire plein de choses et on peut passer du temps. Et c'est vrai que quand on rentre dans des bibliothèques américaines, on voit souvent des gens qui, clairement, vu leur tenue vestimentaire, sont des gens dans un très très grand dénuement. On voit beaucoup de pauvres dans les bibliothèques. Et je trouve ça très beau, cette idée que c'est pas parce que je suis pauvre que je vais pas pouvoir m'instruire, que j'ai pas accès à la culture, et que moi, si j'ai pas de richesse matérielle, je peux avoir une richesse intellectuelle et spirituelle. Et on rencontre des gens brillants comme ça dans les bibliothèques. Moi, j'avais vécu ça aussi il y a une douzaine, quinzaine d'années maintenant, je ne sais plus, mes points de repère sont vagues, à une époque où je travaillais à la bibliothèque universitaire de Nanterre. Et c'est vrai qu'en travaillant à la BU, je me suis rendu compte que je ne voyais pas uniquement des étudiants au quotidien comme j'aurais pu présager, mais je voyais aussi beaucoup de gens qui habitaient Nanterre, des gens précaires, voire pauvres, pour qui la seule distraction, c'était principalement de venir à la bibliothèque. Venir lire des livres, ils ne pouvaient pas en emprunter, c'était pas étudiant, mais ils venaient lire des livres, ils venaient regarder des vidéos à la vidéothèque et du coup se faire une culture cinématographique incroyable et que c'était leur richesse. Donc la bibliothèque, c'est un lieu de protection et d'épanouissement intellectuel et c'est beau que ce lieu-là existe, quoi. C'est un petit peu, pour moi, c'est un peu l'église profane. On a envie de se réfugier. Demander asile, il y a des siècles et des siècles, on serait allé se réfugier dans une église, et le lieu, le refuge athée, ça va être la bibliothèque.
Et d'ailleurs, pour le coup, le salut, il le trouve dans une église aussi dans ce film, bien qu'avant de rentrer dans l'église, où ils vont rencontrer Alice qui va leur sauver la vie, en fait, la première chose que dit le petit garçon, c'est « Maman, elle aime pas les églises ».
C'est vrai.
Mais pourtant, ils rentrent dans cette église-là. Je voudrais qu'on termine en parlant un peu, parce que ce podcast, pour un seul film, c'est très long, mais c'est pas grave. C'est un premier podcast.
Donc, c'est un film qu'on aime. Donc, oui, voilà. On verra après.
Qu'on parle un peu de ce truc que moi, j'ai ressenti et sur lequel j'ai un peu écrit en anglais, un article que je vous ai lu, que je vais mettre sur Instagram. Sur le fait que je suis... Ma première réaction en sortant de ce film, c'est « Les critiques vont pas aimer parce que c'est trop gentil ». Ce truc du sentiment enfin, qu'on a exprimé depuis le début de ce podcast sur « Ah, on était étonnés que ce soit un film si positif, bah voilà, il y a un happy ending à la fin. » Ah oui, je voudrais quand même préciser qu'il y a quand même quelque chose d'assez fou, et donc il y a une histoire d'amour quand même qui se noue entre cet homme, Marc, qui se retrouve tout d'un coup à la tête d'un restaurant et cette femme qui est en fuite et qui finit par abriter chez lui. Je voudrais d'abord préciser qu'il y avait plein de façons de cette histoire d'être un peu creepy, dans le sens où il lui propose de rester, après qu'elle ait dormi deux jours sous son piano, qu'elle soit partie, il lui propose, quand il la redécouvre dans un refuge, de dormir chez lui avec ses deux enfants, enfin, d'avoir un de ses fils, puis ses deux fils. Il y a quand même quelque chose où il lui offre son lit, littéralement. Mm-hmm. Après, elle lui dit qu'il dort ailleurs, mais un homme qui est intéressé par une femme et qui l'héberge, ça a tout un tas de connotations et tout un tas de dangers clairs, et je trouve que quelque chose de très fort où clairement il est en train de tomber amoureux d'elle, et il lui dit même plus ou moins à un moment que s'ils sortaient ensemble, et il en aurait marre d'attendre qu'elle lui prenne la main et il essaierait de prendre la sienne. Donc c'est quand même quelque chose de très clair sur ses intentions. N'essaye jamais de l'embrasser jusqu'au moment où elle a un autre endroit où vivre. C'est-à-dire que c'est au moment où elle lui dit « je pars demain, j'ai un endroit où vivre, je vais être protégée par l'État » que là, il l'embrasse. Et là, en même temps, quand elle l'arrête en disant qu'elle a besoin de s'occuper de ses garçons, jamais il essaye de provoquer son retour, jamais il lui demande quoi que ce soit. Enfin, à aucun moment, il n'essaye d'imposer sa volonté ou son désir il est trop respectueux de ce qu'elle est en train de vivre. C'est quand même assez fort. Et que
oui,
finalement.
Il a conscience de la gravité de ce qu'elle est en train de
vivre. Quelle personne qui lui dit qu'il faudrait qu'il demande si elle peut.
C'est Bill Nye. Qui dit et elle va pas revenir? Non, je crois pas. Et tu pourrais pas lui demander?
Et il va pas demander.
Toi, t'es malheureux.
Elle va finir par revenir. Même les moments où elle se retrouve, c'est hyper intéressant parce que. Ils vont se retrouver tous autour d'une table. Il est éloigné d'elle, il n'est pas juste assis à côté d'elle. Et ils se regardent, et cet échange de regards est très très beau. On sent la force de leur lien. Et puis à un autre moment, elle va revenir le voir, il est seul.
Ou entre-temps, sa situation a évolué.
Elle est indépendante.
Elle a décidé de vivre
à New York. Et... elle vient pas à côté de lui. Enfin, il lui tire une chaise, elle s'assoit, il est assis en face.
Il lui désigne une place pour s'asseoir en face de lui, donc pas proche de lui.
Oui. Il met en place le fait de pouvoir la regarder sans l'approcher, sans chercher à la toucher. Et en même temps, c'est pas de la regarder de façon creepy du tout. Enfin, c'est vraiment... il y a d'abord cette distance...
Il se regarde,
il se parle, et après il a ce geste où il y a une chaise tout près de lui. Il bouge un petit peu la chaise, il dit rien. Et du coup, très clairement, c'est une chaise où elle peut venir s'asseoir.
En fait, ce qu'il dit, c'est qu'elle lui propose, elle lui apporte un cadeau. Il dit c'est quoi? Il dit un maillot de bain. Donc, c'est quand même de la part d'une nana d'offrir un maillot de bain. Il dit tu veux qu'on aille à la plage? Elle dit oui, un jour ou l'autre, enfin, eventually, donc at some point, donc ce qui veut dire en gros, on a un avenir. Et là, il dit d'accord, donne-moi 10 minutes. Et là, il met la chaise à côté de lui, et ce qui veut dire en gros, donne-moi 10 minutes pour. Profiter du fait que t'es là, quoi.
Voilà, mais il lui demande pas de venir à côté de toi ou quoi que ce soit. Il a ce geste. Elle vient s'asseoir.
Elle met sa tête sur son épaule.
C'est ça que je voulais en arriver. C'est qu'elle met sa tête sur son épaule. Il n'y a pas un espèce de.
Il ne se saute pas dessus et ça ne va pas en l'air sur la table.
Et du coup, il y a une charge. Finalement, il y a une charge émotionnelle et érotique vachement poussée.
Attends, tu vois ce que je veux dire.
Oui, non, mais voilà, oui, non, c'est quelque chose de très très fort. Et en fait, c'est d'une émotion, enfin, il y a une telle émotion, une telle sensualité aussi dans leur rapport, dans la façon dont ils se regardent et dont ils se. Même quand ils s'embrassent, la seule fois où ils s'embrassent, il y a vraiment quelque chose de. Tu sens, et puis il est juste très très beau. Je suis désolée. Donc dès le départ, ça crée un truc.
T'as le droit de le trouver beau.
Ça crée un truc. Et puis là, en fait, surtout, il y a aussi l'intelligence de voir, ils ont un meet cute complètement génial. Où elle est clairement complètement en train de lui mentir.
Il le sait totalement. Non, parce que tu as raison, tu tiens pas la route une seconde.
C'est clair.
Mais il fait comme si de rien n'était.
Très élégant. Il lance des perches et elle rajoute et genre. Ok, bon, bah je vais y aller.
Là, et il lui laisse tout le temps sa dignité. Ouais. Alors que c'est une femme qui vit des choses où elle pourrait se sentir indigne, vu toute la déchéance sociale qu'elle vit et la détresse dans laquelle elle est. Et même, il lui rend sa dignité en permanence à chaque fois.
Mais de toute façon, tout le côté où il la trouve, il voit qu'elle dort sous le piano avec son fils et il fait bon d'accord. Et donc le lendemain matin, il lui apporte un plateau avec le petit déjeuner sans les déranger. Puis le lendemain, un plateau avec du caviar sans les déranger.
C'est pas le lendemain en fait, c'est juste après parce qu'elle sauf qu'elle a pas encore mangé le premier.
Parce qu'ils sont tellement fatigués.
Tellement fatigués qu'ils dorment.
Mais moi, c'était le lendemain, le plus tard.
Le déjeuner, en fait, toc. Et puis après, il lui a
mangé. Elle est endormie sous le piano dans le restaurant.
Elle n'a pas touché le premier truc, parce qu'il y a encore les œufs, il y a encore les toasts.
Ouais.
Et après, elle met le caviar.
J'adore quand elle se réveille et qu'elle boit un verre d'eau. Qu'elle boit à l'eau et qu'il lui propose un verre. Et après, elle commence à lui raconter sa vie, en fait. Et juste après, il y a son fils qui arrive qui dit t'étais où? Et t'imagines la panique du gamin qui se réveille tout seul.
Dès l'eau, tu tends un verre d'eau.
Et en fait, j'ai pensé, parce que donc il y a un moment quand même le plus petit qui manque de mourir de froid, et c'est vraiment un moment hyper dur et tragique, où je me suis dit, ils m'ont pas fait du bien pendant une heure pour me montrer que le gamin meurt de froid dans le parc.
Ben non, c'était le truc pour qu'elle soit en relation avec la fille.
Mais elle était déjà dans le bureau de la fille.
Oui, mais il y a un truc qui se passe.
Oui, c'est effectivement, il y a un truc plus intense, il y a un truc pour qu'en fait elle raconte vraiment ce qui lui arrivait, qu'il reste pas juste une nuit, mais qu'effectivement, et qu'elle explique sa détresse.
Puis surtout qu'elle se retrouve face au truc, pour qu'il y ait justement une action qui se passe, pour qu'elle vienne dans. C'est pas pour revenir dans le droit chemin, tu vois ce que je veux dire, mais là elle était enfuie, elle pouvait pas rester comme ça.
C'est un moment de l'impasse en fait. Elle peut pas aller plus loin et elle a besoin de se faire aider. Parce qu'en fait, jusque-là, elle accepte pas de se faire aider, là c'est le moment.
Ouais. Qu'elle doit avoir un avocat et qu'elle doit se prendre en charge le fait que maintenant She's strong and she needs to take care of it.
Ce qui me fait penser que Alice, donc, a son groupe s'appelle Forgiveness, et je pense que c'était probablement le. Moi, dans ma tête, c'est le titre de travail du film. Parce que l'idée du pardon et de se pardonner à soi-même. Enfin, en plus, voilà, je. Pour ceux qui me connaissent d'autres podcasts, j'ai une obsession pour la honte. Et donc, le rapport à la honte et donc au pardon. Et qu'on ne peut pas faire le bien autour de soi tant qu'on ne s'est pas pardonné à soi-même. Enfin, il y a quelque chose de très fort là-dessus. Mais je trouve qu'il y a quelque chose aussi dans le personnage d'Alice qui est très fort sur le fait de ne pas réaliser ce qu'on a et d'avoir besoin de le réaliser pour avancer, qui est le moment où, où l'infirmière lui dit « Les gens aiment beaucoup ton groupe, la preuve, il y a une liste d'attente. » Sauf ceux qui sont sur les attentes. Et elle fait « Il y a une liste d'attente ?» Et ce truc de tout d'un coup, elle réalise sa valeur. Ce qui me fait penser que tout le truc autour de ce groupe, c'est quand même les passages absurdes et hyper drôles de ce film, où les membres du groupe ne sont pas du tout supportés avec les autres.
C'est Abby. Surtout, dès qu'il voit un arrêt sur image de sa gueule, tu fais genre
elle est mais en même temps, elle est géniale. Et j'adore la façon dont elle vire les deux du groupe. Et après, où l'autre, il dit « Oui, tu peux rester à me parler parce que je viens de me faire virer par ma thérapeute de mon groupe de soutien. »
Puis aussi le rôle de la chaise. Les chaises.
Oui, la chaise de bureau, la chaise roulante.
La chaise de bureau Claude que balance par la fenêtre.
Jeff
les gamins jouent avec. Après que les autres récupèrent, l'autre la récupère.
Oui, et d'ailleurs, quand elle s'assied sur la chaise, elle regarde la chaise. Parce que du coup, c'est Clara qui s'assied sur la chaise au moment où elle...
On a cet objet qui parcourt tout le film. Et d'ailleurs, dans la toute première scène, au moment où Clara fuit avec ses enfants...
Oui, on voit la chaise de bureau aussi.
Elle bouscule la chaise de bureau. On dit « Oh, mon Dieu, elle va faire un bruit avec cette chaise, ça va grincer !» Le père va se réveiller, donc il y a déjà le motif de la chaise.
Bon, en gros, ce film nous a plu, je pense qu'on peut le dire.
Ah bon ?
Dernier petit chapitre, donc la Berlinale, ça va durer jusqu'à dimanche 17, mais je pense qu'on va faire des podcasts jusqu'à vendredi 15, parce qu'après 16-17, il n'y a plus grand-chose de nouveau. Il y a 17 films en compétition. Sachant que la compétition a 23 films, dont 6 films hors compétition, mais dans ce cas, je comprends pas pourquoi ils font partie de la compétition, si c'est encore pas passant. Mais il y a énormément.
Un peu dans les sélections officielles des films.
Mais c'est ça, c'est parce que. Oui, mais
un
c'est
petit
parce
peu
que,
à part.
Vu qu'ils disent compétition pour les deux mots.
Oui, c'est la nomenclature qui est pas.
La compétition très hors compétition, je trouve ça étrange. Mmh. Mais bon, donc il y a 17 films en compétition, plus 6 films dans la sélection officielle. À dire ça. Il y a beaucoup d'autres panoramas, Berlinale, machin,
Berlinale.
Voilà,
des séries, des courts-métrages.
Il y a 7 séries, il y a beaucoup de courts-métrages que je n'irai pas voir pour tout l'heure du monde, mais que Carlos se fera un plaisir de couvrir. On va essayer de parler de toutes ces choses-là. L'idée, c'est de faire des podcasts un peu comme ça, donc très sur le vif. Le soir même, on parle de ce qu'on a vu dans la journée, de tout ce que ça nous inspire. Vous excuserez le côté en direct de chez nous, parce que voilà, on est dans un festival, donc on fait les choses sur le vif, sinon on n'a pas le temps de les faire.
Quand on est à la maison, hein. On pourrait être dans un café, ça pourrait être un peu plus bruyant.
Voilà,
ça arrivera peut-être.
Vous aurez peut-être des sons qui seront pris au hasard du festival. Vous pouvez en tout cas nous suivre. Et suivre tout ce qu'on écrit. Je pense que Carole aussi, tu vas aussi écrire des petites choses sur le site.
Alors, il y aura un journal de bord sur le site www.lesecransterribles.com. Ce podcast que vous allez retrouver régulièrement, qu'on va poster également sur le site. Plein de vidéos aussi qui vont apparaître au quotidien, en particulier sur nos réseaux sociaux, Instagram, Facebook.
Donc l'Instagram, c'est Écran Terrible au pluriel.
Tout à fait.
Sans tirer, sans rien du tout.
Facebook, les écrans terribles. Voilà, et l'idée, c'est vraiment de vous faire vivre la Berlinale de l'intérieur de la façon la plus spontanée possible, vous faire vivre nos coups de gueule, nos coups de cœur, nos interrogations.
Nos émois sentimentaux.
Nos émois, voilà. Donc, le cerveau analytique et le cerveau émotionnel vont fusionner, vont se battre, vont... être en ébullition en permanence, et vraiment l'idée c'est...
Et se livrer sans filtre.
C'est ça.
À vous, à travers.
Sans filtre.
À travers ce...
Et on va faire ça très sérieusement, mais sans se prendre au sérieux.
Tout à fait. Il y en a peut-être qui sont déjà... Si vous êtes à la Berlinale et que vous entendez ce podcast, vous pouvez nous contacter, peut-être.
Ouais, faites-nous signe.
Vous pouvez nous trouver à quelques petits endroits, parce qu'on va très souvent chez Brimibal Donuts, qui est un café de donuts vegan, qui est à côté de la Berlinale, enfin qui est dans la Berlinale, et on va y passer pas mal de temps.
Je pense aussi. Et vous pouvez aussi nous trouver sur les réseaux sociaux, donc sur Instagram ou sur Twitter. Enfin, moi, j'ai un Twitter qui est Yaelka, Y-A-E-L-K-A, et j'ai un Instagram qui est Yaelka, donc Y-A-E-L-K-A-A. Tout simplement, au-delà des écrans terribles, Carole, on peut te trouver aussi.
Moi, j'ai un Twitter où je ne vais jamais.
N'y allez pas, ça ne sert à rien. Tu as un Instagram?
J'ai un Instagram sous le nom de Elinor Ronil. Et pour info, Ronil, c'est toutes les lettres de Elinor à l'envers. Voilà, pour ne pas vous perdre de temps à réfléchir.
Avec un tiré entre les deux, non?
C'est avec un underscore au milieu.
Voilà, et toi, tu es?
Écureuil berlinoise.
De façon évidente. Voilà, ben, merci beaucoup pour cette première grande conversation. Je pense qu'on aura des grandes anecdotes sur la Berlinale dans les jours qui viennent, je suis sûre. Pour l'instant, c'est vrai qu'on a surtout vu un film et on est reparti.
Et on doit se réveiller tôt en plus.
Et on doit se réveiller tôt demain. Demain, a priori, on a trois films. Donc voilà, on sera peut-être plus court sur chacun des films, on verra. Et en
ça
tout cas, on essaiera
pour les films.
De vous donner le prochain podcast le plus rapidement possible. C'était Les écrans terribles chez les ours, hashtag Berlinale 2019, épisode 1. J'ai écrit un truc totalement illisible. On va y aller. À très vite et...
Rendez-vous chez les ours.
Rendez-vous chez les ours, c'est...
D'ours de la Berlinale.
Oui, non, mais c'est... Et bon baiser du pays des ours, non.
C'est vrai que c'est beaucoup mieux.
Donc alors, attends.
Terrible journée à vous.
Attends. Film d'une Danoise, Lone Scherfig. J'ai essayé de trouver la prononciation, je ne l'ai pas trouvée. Donc on va en rester là. Ma version pseudo-allemande moitié
on va valider inventée. Cette version,
voilà.
Et on va essayer de la maintenir. Je ne sais pas si je serai capable de répéter son nom plusieurs fois dans le podcast.
Dire
Lone Scherfig.
On va considérer que
ou
c'est
Scherfig.
C'est S-C-H-A-F-I-G, c'est ça? Ou il y a un E? Dis-moi qu'il y a un E.
Non, il n'y a pas un E.
Non.
Bah si.
À la fin de Scherfig, non.
Oui, mais je viens de le prononcer avec un A, les filles. J'aime l'épeler avec un A. C'est pour ça que je dis où il y a un E.
Un E au milieu.
Ah oui, mais moi, je pensais que tu pensais à la fin, parce que...
Non, non. S-C-H-E-R. Bon, on va recommencer parce que j'ai dit n'importe quoi trois fois.